Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Dans l'évangile d'aujourd'hui, notre Seigneur parle d'un personnage très important, Saint Jean-Baptiste. Saint Jean-Baptiste qui est l'homme à la charnière entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Il y a chez cet homme quelque chose des prophètes, des grands hommes de l'Ancien Testament. D'ailleurs, le peuple juif, on va dire la partie saine du peuple juif, est à l'écoute de Saint Jean-Baptiste. Donc on a constaté, tout le monde sait, ce n'est pas de l'hypocrisie, que c'est un homme extrêmement mortifié. C'est pas les grands restaurants et la belle vie et tout ça. Il est habillé de peau de bête. Ça vous dit de vous habiller avec une peau de léopard ou une peau de lapin? Ça doit gratter. Bon, peau de bête. Et puis les repas, vous savez, c'est pas le steak frites et le Coca-Cola et tout ce que vous voulez. Non. Très, très mortifié. Quant au sommeil, ne vous imaginez pas le splendide lit de Louis XIV ou de Louis XV. Oh là là. Non. Donc tout le monde sait que ce qu'il dit, sa prédication, ce n'est pas de l'hypocrisie. Ça correspond véritablement à ce qu'il vit. Et les gens sont touchés par sa prédication parce que il ne dit pas des choses pour flatter les gens. Il dit la vérité. Et il dira tellement la vérité que ça va lui en coûter sa tête. Car on peut dire la vérité jusqu'à un certain point. Vous avez par exemple des journaux qui sont proches, on dira, de notre mouvance, de ce que nous pensons, mais certains sujets ne comptaient pas qu'ils soient abordés. Vous savez, les innommables, ils ne seront pas attaqués dans ces journaux-là. Non, c'est un sujet trop brûlant. Saint Jean-Baptiste, lui, s'il s'agissait de déplorer et de condamner les défauts criants des gouvernants, les mauvais exemples qu'ils pouvaient donner, tels que Hérode, qui commettait un très grand péché, puisque non seulement il n'était pas avec sa femme, il en avait pris une autre, mais il avait pris sa belle-sœur. Alors ça, c'est pompon. Et Saint Jean-Baptiste disait, si vous voulez vous damner, c'est pas compliqué, vous suivez l'exemple d'Hérode. Vous faites des choses comme ça. Mais si vous voulez aller au ciel, respectez la loi de Dieu. La pureté, chacun selon son état, la chasteté, chacun selon son état, doit être rigoureusement observée. Mais vous savez bien qu'il y a des oreilles qui traînent et que Hérode avait été mis au courant des prédications de Saint Jean-Baptiste. Et donc, Saint Jean-Baptiste finira par se retrouver en prison et la fameuse Hérodiade obtiendra que la tête de Saint Jean-Baptiste soit tranchée. Mais avant cela, notre Seigneur fait la louange de Saint Jean-Baptiste. Ce que je vous ai dit, c'est un homme extraordinaire et certes, il est à la charnière, l'Ancien et Nouveau Testament, il parle comme un prophète de l'Ancien Testament et il annonce le Sauveur qui est arrivé, parce qu'ils sont contemporains. On rappelle que Saint Jean-Baptiste est dans le sein de sa maman, Sainte Élisabeth, lors de la visite de la Sainte Vierge, hein, le mystère de la visitation. Il a 6 mois de plus au niveau de la conception. Et Saint Jean-Baptiste va sanctifier le peuple, préparer le peuple à la venue de notre Seigneur Jésus-Christ, non pas par les sacrements. Il n'est pas investi du sacerdoce, ni de l'Ancien Testament, ni du Nouveau Testament. Donc ce n'est pas un ministère, on va dire, sacramentel qu'il va assurer. Vous me direz, mais il a baptisé. Oui, mais le baptême de Saint Jean-Baptiste n'est pas le sacrement de baptême. C'est une figure, seulement une figure, pour faire comprendre au peuple juif qu'ils doivent se laver, qu'ils doivent pleurer leurs péchés s'ils veulent être pardonnés par le bon Dieu. Donc Saint Jean-Baptiste est un homme admirable par sa conduite, par sa prédication. Il est en quelque sorte, mis à part le fait qu'il n'est pas réellement prêtre, il n'a pas été ordonné prêtre, et il ne donne pas les sacrements qui vont être institués ultérieurement, il est quand même le modèle des prêtres, par le fait de sa vie mortifiée, par le fait de sa prédication de la vérité, et le fait que toute son énergie, il la déploie pour glorifier le bon Dieu et pour amener les âmes à notre Seigneur. Saint Jean-Baptiste, et ça il faudrait le rappeler à un certain nombre de prêtres, ne cherche pas à s'accaparer les âmes. Il envoie les âmes à notre Seigneur. D'ailleurs, plusieurs qui sont de ses disciples, il leur dit, allez, vers celui dont je ne suis pas digne de délier la courroie de la chaussure. Hein? Alors, oui, Saint Jean-Baptiste est quelqu'un d'admirable. Et modèle à imiter par le clergé catholique, qui doit aussi, comme Saint Jean-Baptiste, avoir le souci des âmes, le prix d'une âme qui a coûté le sang de notre Seigneur Jésus-Christ, les souffrances de notre Seigneur Jésus-Christ. Et notre Seigneur dit, tout d'abord, donc dans l'Évangile, les aveugles voient. Donc, il reprend, si vous voulez, des paroles de l'Ancien Testament pour dire, pour ceux qui ne comprennent pas, les temps sont arrivés, les temps du Messie, c'est maintenant. Donc, ce qui était annoncé se réalise. Les aveugles voient. Pourquoi voient-ils ? Parce que nous sommes dans un monde de ténèbres. Les ténèbres du paganisme. La lumière du monde, hein, Lumen Gentium, on chante ça. Ou bien, Lumen Gentium, donc c'est le 2 février. Vous vous rappelez un petit peu quand même de la cérémonie des cierges, la procession. Et puis, à Pâques, la vigile pascale, donc quand on célèbre le soir, par exemple, on rentre dans l'église avec le cierge pascal, et qui est allumé, et puis les fidèles sont avec leurs petites chandelles, et à un moment donné, on va allumer toutes les petites chandelles avec le cierge pascal. Lumen Christi, que le prêtre chante à trois reprises, un petit peu plus haut à chaque fois. Oui, la lumière du Christ est entrée dans le monde et tout ce monde aveugle. Ben évidemment, quand on est aveugle, bon, on risque bien de se taper la tête contre les murs, contre les arbres, de tomber dans un précipice. Alors, bon, on a trouvé des petits moyens quand même, ils ont une canne pour se guider, mais ça n'évite pas tous les accidents. Hein. Alors, la cécité, être aveugle, si vous voulez, sur le plan spirituel, c'est beaucoup plus grave que la cécité du corps. On peut bien aller au ciel en étant aveugle, ou en étant sourd, ou en étant muet. Avec la cécité spirituelle, c'est bien difficile. Parce que on est dans tous les pièges du démon. Alors, le rôle du prêtre, ça va être, justement, d'allumer, de faire venir cette lumière divine dans le monde, partout. Évidemment, en Occident, ça a été les premiers pays, la France, l'Italie, l'Espagne, qui ont été christianisés, où la lumière de l'Évangile, après, évidemment, la Judée, s'est installée. Et puis, bien vite, les apôtres sont partis aux quatre coins du monde, et à la suite des apôtres, il y a eu les missionnaires qui sont partis en Amérique, en Asie, un petit peu partout. Pour que, ayant cette lumière divine, les peuples puissent sortir des ténèbres grossières du paganisme, qui les conduisait à toutes sortes de désordres gravissimes. Vous savez, si aujourd'hui nos grands historiens, nos grands intellectuels nous disent que ces civilisations passées, qui malheureusement ont été saccagées, détruites par les Occidentaux et le clergé catholique, et tout ça, ben, il nous raconte des balivernes. Car ces peuples, qu'il s'agisse de l'Afrique, qu'il s'agisse de l'Amérique, ils vivaient dans les plus grands désordres. En particulier le cannibalisme. Fallait-il donc laisser les hommes se manger entre eux avec la vinaigrette? Voilà comment ils vivaient. Sacrifiant leurs enfants à Moloch, des faux dieux ou démons, c'était l'abomination. Alors oui, quand il n'y a pas la lumière de l'Évangile, il y a les ténèbres de l'enfer, du démon. Et la venue de notre Seigneur, ce que les prêtres vont faire, les prêtres de notre Seigneur, en premier lieu, eh bien, ça va être justement d'aller aux quatre coins du monde pour convertir les pécheurs, afin qu'il ne soit plus sous le joug du démon, mais sous celui de notre Seigneur Jésus-Christ. Notre Seigneur dit aussi « Claudi ambulant »,« claudiquer ». Vous connaissez ça ?« Boiter ». Bon, c'est pas très chic, n'est-ce pas, hein? Donc on met des talonnettes, on essaye d'arranger ça. Bon, alors, Claudie ambulante, qu'est-ce que ça veut dire? Ben, ça veut dire que il n'y a pas une marche correcte vis-à-vis de Dieu, de la vérité, de la vertu. Ce sont des gens qui s'inclinent à droite, à gauche. Alors à droite, on va dire, ben, c'est le camp du bien. Et puis après, hop, du côté de Satan. Il y en a beaucoup, malheureusement, qui sont dans cette instabilité, qui n'arrivent pas à... n'ont pas la volonté. C'est pas que le bon Dieu ne leur donne pas la grâce. Le bon Dieu donne à tout le monde la grâce. Mais ils sont pris par les chaînes du démon. Alors ce sont des chrétiens, on va dire, hein, quand on dit Claudie Amboulante, on imagine les chrétiens qui ont été baptisés. Mais voilà, un jour à l'église, le lendemain dans la boîte de nuit, pour résumer, si vous voulez, hein, dans des lieux de péché, de perdition. Alors les prêtres vont s'occuper de ces âmes par la prédication, par l'exemple aussi. Ah, si les prêtres étaient exemplaires. Priez beaucoup pour la sanctification des prêtres. L'exemple, c'est toute une prédication. Si vous voyez un prêtre, ou vous entendez un prêtre qui vous fait des grands sermons, des grands discours, puis qu'après il vit comme un patachon, ben c'est pas tellement crédible, évidemment. C'est pas tellement crédible. Donc, la mission du prêtre, c'est de donner le bon exemple. Or, certes, on sait bien que ce qui est humain est fragile. Donc, faut pas non plus exiger des autres, et en particulier des prêtres ou des religieux, des religieuses, le sommet, sur le plan de la vie spirituelle et de la sainteté, et puis vous, on regarde. Non, 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 non. Donc les prêtres, ça va être leur rôle, hein, de guérir les plaies, de encourager, de faire réfléchir, de montrer le bon exemple, donner les sacrements, bien sûr, le sacrement de pénitence, le sacrement de l'Eucharistie, bien, tout ça va contribuer à faire que ceux qui trébuchent, qui sont un jour dans le camp de notre Seigneur et les autres jours dans le camp du démon, vont se ressaisir. Léprosi mundantur. Les lépreux. Oh, quelle vilaine maladie. La lèpre. Les lépreux sont guéris. Alors, les prêtres vont aussi devoir s'occuper de ceux qui, oh, il y a belle lurette, qu'ils ont abandonné la religion. Certes, quand ils étaient petits, maman, papa, parrain, marraine, tout ça, les ont conduits à l'église, ils ont reçu le Saint-Baptême, et pour diverses raisons, après l'adolescence, ils ont abandonné la pratique religieuse, et ils sont complètement dans le monde, dans l'esprit du monde, l'argent, le plaisir, enfin tout ce qu'il faut pour aller en enfer. Je parle de mauvais usage de l'argent, évidemment, et des mauvais plaisirs. Il y a quand même quelques petits plaisirs qui sont légitimes. Quand vous êtes harassé de fatigue, le plaisir de vous mettre au lit, ça n'est pas répréhensible, c'est naturel. Ou quand vous êtes affamé, de manger ce que vous aimez bien, c'est pareil, c'est naturel. L'homme doit manger pour vivre. Mais c'est pas de ça que je parle, hein. De vilains plaisirs, honteux, d'ivrognerie, de débauche, tout ça. Bon. Alors, les prêtres, là, vont déployer des moyens, on va dire extraordinaires, pour pouvoir ramener ces brebis très loin. Ah, elles ne viennent plus à l'église. Non, 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 non. Non. Il y a quand même vague souvenir du catéchisme, mais alors ça pourra être, par exemple, des retraites spirituelles. L'Église a toujours, pour vous dire qu'il y avait les retraites spirituelles de Saint Ignace au 1er siècle, quand même, mais enfin, tout au cours de l'histoire de l'Église, il va y avoir des modes un petit peu différents, hein, où on va mettre des personnes, des hommes, ou des femmes, dans le recueillement, dans le silence, pour prier, pour réfléchir. Petit à petit, les choses vont se structurer avec les différents ordres religieux, et en particulier les fameuses retraites de Saint-Ignace, qui sont un trésor de l'Église. Il y a eu des wagons et des wagons complets, des trains de gens qui se sont convertis aux quatre coins du monde avec les exercices spirituels de Saint-Ignace. Mais je vous dis encore, ce ne sont pas les seuls exercices, les seules retraites qui existent. Mais c'est certain que pour ceux, on va dire les lépreux, là, hein, ceux qui ont la lèpre du péché qui est incrustée dans leur âme, ben, faut des grands moyens, hein, pour les ramener à Dieu. Et c'est vrai que les retraites, quand les prêtres les prêchent, eh bien, on voit la grâce qui touche les âmes. Hein. Des hommes, des femmes, pleurer, réellement, pleurer leur péché. Hein. Parce que là, on prend le temps, on prend le temps. C'est pas un petit cachet d'aspirine comme ça. Allez, ça y est, vous êtes guéri, prenez un cachet d'aspirine. Non, non, oh là là. On passe des jours et des jours à soigner ces âmes qui sont tombées et qui se sont tellement avilies dans leur chute. Alors ça, ça fait partie des missions des prêtres, hein, des prédications adaptées. Et ça fait partie aussi des devoirs des chrétiens. Vous devez réfléchir un petit peu comment vous organisez votre vie. Alors, si vous vous considérez, oui, mais mon père, moi je suis un saint, donc pas besoin de faire de retraite. Non, je sais bien que je force les choses. Hein. Vous ne me direz pas ça. Mais enfin, vous me direz peut-être, vous savez, écoutez, je suis bien pécheur comme tout le monde, enfin, voilà, quand même pas. Comme certains, hein, donc retraite spirituelle, moi j'ai bien compris que c'est pour les grands pécheurs, mais c'est pas pour moi. Puis vous savez, je suis très pris, hein. Ma femme est très exigeante, voilà, le jardin, la peinture, ceci et cela, les courses et tout. Donc j'ai pas le temps de faire une retraite. Ben, c'est bien dommage, mon cher ami, que vous n'ayez pas le temps de faire une retraite. Parce que vous découvririez des choses. Et vous vous rendriez compte, par exemple, que vous êtes dans l'illusion sur certains points. On apprend beaucoup de choses lors de ces retraites. Et chaque être humain devrait, avant de mourir, avoir fait une retraite. Et je suis sûr que parmi vous, là, il y en a un certain nombre, peut-être une majorité, je ne parle pas des petits enfants, des adultes, qui n'ont jamais fait une retraite. Avec toutes les bonnes excuses. Faut que je traie les vaches. Bon, d'accord. Il y a peut-être quelqu'un d'autre qui peut, quelques jours, vous remplacer pour traire les vaches. Et l'entreprise. Ah, vous n'imaginez pas que je demande à ma femme de s'occuper de l'entreprise. Alors, la catastrophe, hein. Elle va tout me liquider en une semaine. Bon. Voilà. Toujours des prétextes pour échapper à ce que notre Seigneur voudrait pour vous. Surdi, audiunt, la surdité. Les sourds entendent. Ah, oui. Vous vous souvenez de ce petit passage au moment du baptême, le prêtre qui touche les oreilles. Effeta quod est ad aperire. Donc, c'est symbolique, bien sûr, que l'ouïe, le sens de l'ouïe, s'ouvre à la parole de Dieu. Naturellement, l'homme écoute les petits oiseaux, le chien aboyer, Ginette qui demande quelque chose. ou qui rouspètent. Bon, enfin, les choses du monde. Mais nos oreilles ne sont pas faites que pour les oreilles du monde, les choses du monde, pour la parole de Dieu. Le bon Dieu a tellement de choses à nous dire, au plus profond de notre cœur, pour notre réforme spirituelle, pour notre progrès spirituel. Alors, ben oui, les prêtres vont parler. Les prêtres doivent parler. Et pas brasser des paroles comme ça, parce que ça rime, parce que c'est un vocabulaire très recherché. Il y a des prêtres qui s'amusent. Ça les amuse. Bon. S'ils veulent s'amuser, que voulez-vous? Il y en a qui veulent s'amuser, puis il y en a d'autres qui veulent faire leur ministère. Enfin, ils vous sortent continuellement des citations latines. Bon. Très bien, ils sont intelligents, ils ont... Voilà. Mais... Vous comprenez si je vous fais des citations latines, là, pendant trois quarts d'heure, déjà vous dormez à moitié, alors là, c'est fini, hein. Bon, qu'on fasse une citation latine, parce que j'en ai fait quelques-unes, c'est dans l'Évangile, là. Enfin, voilà, il faut vous parler dans la langue que vous comprenez. Le prêtre ne doit pas prêcher pour se faire plaisir, pour encenser des mondains. Qui ont envie d'entendre, qui sont des gens bien, qui iront au ciel, voilà, que tout va très bien. Que les méchants sont à l'extérieur de la chapelle, mais qu'ici, il y a les bons. Si c'est ça que vous voulez entendre, c'est pas ça que vous entendrez de ma bouche. Qu'il y ait des méchants à l'extérieur, c'est sûr, c'est certain, mais qu'il n'y ait que des bons parmi nous, je n'y crois pas. Il y a de la méchanceté, il y a du vice, il y a de la paresse spirituelle. Voilà. Un jour dans un camp, l'autre jour, je ne sais pas trop où on est. Donc, le prêtre doit être quelquefois tonitruant. Vous savez ça. Hein. Le prêtre à l'autel doit être comme un ange. Le prêtre en chair, un lion. Le prêtre au confessionnal, un agneau. Ah ben oui, hein. Si le prêtre commence à vous aboyer dessus, au confessionnal, il n'y aura plus grand monde à se confesser, c'est vrai. Mais il faut dire les choses quand même, c'est certain. Mais avec douceur, beaucoup de patience. En tout cas, la prédication, le rôle du prêtre dans la prédication, ça doit être toujours à l'exemple de Saint Jean-Baptiste. Dire la vérité. C'est pas la mode de dire la vérité. C'est pas la mode de prêcher de l'enfer. Eh bien, il faut prêcher de l'enfer. C'est pas de la mode de vitupérer contre certains désordres de la société moderne. Il faut le faire. Aujourd'hui, il n'y a plus de famille, les familles sont éclatées, voilà. C'est l'État moderne, les sociétés modernes. Hein. Ben non. Ça, c'était bon au Moyen-Âge. Un homme avec une femme pour avoir des enfants. Mais enfin, c'est dépassé. Voilà. C'est pas dépassé du tout. Et quand bien même la société serait tellement abattue, si vous voulez, qu'on en serait pratiquement à ce qui se faisait à Sodome et Gomorre, le rôle des prêtres, même si la police d'État arrivait, vous avez prêché comme ceci, monsieur, on vous embarque, vous irez en prison. Eh bien, les prêtres devraient dire la vérité, même s'ils savent qu'on va les mettre en prison parce qu'ils prêchent la vérité. Mortui resurgunt, les morts ressuscitent. Résurrection spirituelle avec le sacrement de pénitence. Voyez comment on a détruit cette résurrection, cette possibilité de la résurrection spirituelle, pratiquement en supprimant le sacrement de pénitence. Bon, déjà, je vous le disais, hein, chez les protestants, il y a une belle lurette que ça a été balayé. On se confesse directement comme ça. On est en ligne directe. Téléphone rouge. Hein, avec le bon Dieu. Non. Le Christ a établi qu'on doit s'humilier, se mettre à genoux et dire ses péchés, en tout cas les péchés graves, au prêtre. Eh bien, Vatican II a trouvé la solution. Cérémonie pénitentielle. Ben non, pauvres prêtres, vous n'allez pas les embêter. Ils ont autre chose à faire, vous comprenez? Vous vous rassemblez tous, là, tant que vous voulez. 100, 1000, 10 000, si vous voulez. Un seul prêtre suffit. Je vous pardonne tous vos péchés. Allez-y. Ça ne marche pas comme ça. L'absolution collective est invalide, sauf raison très particulière. S'il y a une bombe qui va éclater dans 3 minutes, c'est certain que je n'ai pas le temps de confesser 36 personnes. Hein. Bon. Alors, dans un cas comme ça, en cas de guerre, hein, quand les soldats montent au front, on sait bien que ça va aller mal. Il va y avoir des morts. Plutôt que de ne rien faire, et l'Église prévoit ça, le prêtre fait un petit speech, rapide, parce qu'on n'a pas le temps, mais avec des mots vraiment percutants, pour exciter le plus possible à la contrition les soldats, et effectivement, là, il a l'autorisation de l'Église, et c'est valide, de donner une absolution pour tous ceux qui sont là. Là, ça fonctionne. Mais autrement, en temps normal, ça ne fonctionne absolument pas. Alors, vous voyez l'œuvre du démon. Les prêtres modernes ne changent plus le pain et le vin au corps de notre Seigneur. Les prêtres, entre guillemets, modernes, ne donnent plus les absolutions. Donc, il n'y a plus cette résurrection spirituelle. Ils ne veulent même pas bénir. Vous leur demandez de venir chez vous, de bénir la maison, de bénir les semences, de bénir la voiture. Non. C'est de la superstition de tout ça. On est bien loin de l'institution du sacerdoce voulu par notre Seigneur Jésus-Christ. Et puis, pour terminer, notre Seigneur nous dit « Pauperes evangelizantur ». Les pauvres sont évangélisés. Mais oui. Aller vers les pauvres. Alors, il ne s'agit pas de l'Église de la Libération, là, communiste et tout ça, non. Mais les prêtres ne doivent pas fréquenter exclusivement les salons, vous savez, de gens qui mènent une vie... Non. Qu'on s'occupe de Madame la Princesse, très bien, elle a une âme à sauver. Hein. Et justement, il faut s'en occuper parce qu'elle peut faire beaucoup de bien. Elle a des moyens. Si on arrive à la convaincre que l'aumône pourra lui permettre de sauver son âme, eh bien... Elle mettra ses biens à disposition pour créer des hôpitaux, des écoles, des orphelinats, tout ce que vous voulez. Ben oui. Si vous dites à un pauvre qui n'a pas 3 sous dans son porte-monnaie, mon ami, il faut faire l'aumône, hein. Il faut construire des hôpitaux, mais c'est pas le pauvre bougre qui va vous donner des sous, il n'en a pas. Hein. Mais tout autour de nous, il y a plus de pauvres, de gens hein, plutôt simples. Donc, il faut s'occuper de ce monde-là, qui souffre souvent de toutes sortes de misères, et qui est souvent plus proche du bon Dieu que des riches pour lesquels leur seul trésor, c'est leur compte en banque. Alors, demandons à notre Seigneur, avec toute la ferveur de notre cœur, d'envoyer à son Église des prêtres qui aient le souci des âmes. Et puis, ce n'est pas le tout de demander au Seigneur ça, mais aussi, soyez indulgents. et éviter de critiquer continuellement les prêtres. Même si certains prêtres sont dans l'erreur doctrinale. Et c'est vrai, on n'est pas d'accord avec certains prêtres traditionnalistes. Bon, ce n'est pas une raison pour, à tout bout de champ, critiquer ce qu'ils font. Notre Seigneur ne nous demande pas ça. Il nous demande de soutenir le sacerdoce, d'aider les prêtres, de beaucoup prier pour leur sanctification, mais pas de démolir les ministres de l'autel par des paroles de critique, de médisance, voire de calomnie. Hein, de calomnie, parce que c'est, le Saint-Curé d'Ars a été calomnié, mais est-il le seul à avoir été calomnié ? Bien sûr que non. C'est facile de calomnier. De dire, ah, tel prêtre, ça vaut rien. Hein? Tel prêtre, oh, il n'a pas le temps de confesser. Ah non, il ne confesse pas. Ou bien il confesse mal, ou bien ceci, cela. Il bâcle sa messe. Il ne respecte pas les rubriques liturgiques. Ah ben oui, que voulez-vous ? Il y a des prêtres qui peuvent être étourdis quelquefois. Il y en a d'autres quand ils vieillissent, madame, ils n'arrivent plus à faire tous les gestes correctement. Voilà. Et vous avez là, des tradis qui sont là, avec des jumelles à regarder exactement chaque geste. Les hypocrites. Les sépulcres blanchis, j'appelle ça, moi. Voilà. Non. Ne soyez pas de ceux-là, mes bien chers frères. Soyez miséricordieux avec les autres, quels qu'ils soient. Quel qu'il soit, mais en particulier avec les ministres de l'autel. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.